Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Novembre 1805, Versailles. Naissance d'un garçon que l'on prénomme Ferdinand en l'honneur de son parrain. Le papa Mathieu de Lesseps a été consul en Égypte. D'ailleurs, Napoléon voudrait bien l'y renvoyer. Mais Talleyrand le fait nommer consul de France à Livourne. C'est une ville importante, c'est un port de transit pour les Anglais. Mathieu aime beaucoup s'occuper de ses enfants, c'est tout à fait rare à l'époque. Il discerne chez eux d'excellentes qualités, de plus ils sont très robustes, bien portants. La maman espagnole est une bonne musicienne, si bien qu'elle apprend le solfège à ses enfants. En 1809, Mathieu part pour les îles Ioniennes. Sa famille ne le suit pas. Il craint pour elle un bombardement ou un débarquement anglais. Femmes et enfants sont installés à Pise, dans une vaste demeure. Monsieur et Madame de Lesseps reçoivent toutes sortes de personnalités. Élevé dans ce climat cosmopolite, Ferdinand, alors, acquiert une certaine maturité d'esprit. Parmi les gens qui fréquentent le consulat, on a Paul-Louis Courier. Ce dernier apprend à Ferdinand à monter à cheval. Il se révèle un bon cavalier. Figurez-vous qu'il montera encore à cheval jusqu'à plus de 80 ans. 6 juin 1814, Napoléon a abdiqué et un nouveau commissaire royal, cette fois, est nommé à Corfou. Mathieu retourne en France, où est déjà sa famille. Eh oui, mais arrivent les 100 jours, vous savez, quand Napoléon a débarqué. Mathieu, alors, est nommé préfet à Aurillac. Seulement, les 100 jours se terminent mal, hein, c'est Waterloo. Alors, il faut quitter la préfecture. On s'installe chez un oncle dans la banlieue parisienne, au Plessis-Piquet. Il faut s'occuper de l'éducation des 3 garçons. Mathieu, il avait avancé autrefois au gouvernement à l'argent de la solde des troupes, quand il était dans les îles Ioniennes. Alors, il demande évidemment le remboursement. On le rembourse, mais on le rembourse en rente sur l'État. Alors, sans rendre sur l'État, c'est moins sûr hein, comme remboursement. Et on lui octroie quand même 2 bourses pour les garçons. Si bien que Ferdinand entre comme boursier au collège Henri IV. On ne disait pas encore le lycée Henri IV à ce moment-là. Il y obtiendra son baccalauréat. Il dit qu'il en garde un bon souvenir. Et même, il acceptera de présider les banquets d'anciens élèves. Eh bien, quel genre d'élève est-il, justement? Il est doué d'un esprit vif, curieux de tout et possède une excellente mémoire. Il est aussi doué pour les exercices physiques que pour tout ce qui concerne les exercices intellectuels. C'est un bon marcheur, un bon nageur, ça c'est rare à l'époque. Physiquement, il est de taille moyenne, râblé, vigoureux et même batailleur. Le collège Henri IV est alors l'un des meilleurs de Paris. Il est fréquenté par beaucoup de fils de famille, par exemple les ducs de Chartres et de Nemours. Eh bien, ce sont les fils du roi, parce que le roi, c'est Louis-Philippe à l'époque. Mathieu est nommé en mission au Maroc pour y acheter du blé, car la France en manque après plusieurs mauvaises récoltes. C'est un bon choix. Mathieu connaît le Maroc et il parle arabe. En revenant, il s'arrête chez son frère à Lisbonne, accompagné d'un lion et d'une lionne qu'il rapporte. Seulement arrivé à Paris, il laisse le lion au jardin des plantes parce que la lionne, elle est morte en cours de route. Le dimanche, on va rendre visite au lion. Septembre 1818, on annonce à Mathieu qu'il est nommé consul général à Philadelphie aux appointements de 20 000 francs par an. C'est beaucoup, hein, parce que je peux dire, ouf, on commençait à manquer d'argent. À Philadelphie, il apprend l'anglais et il se soigne parce qu'il souffre beaucoup de l'estomac et il marche avec difficulté. Sa famille, elle, est restée en France. Au bout de 2 ans, Mathieu est nommé consul à Alep en Syrie. Lorsqu'il regagne la France, Ferdinand a 17 ans, il va passer son baccalauréat. Sa fille, Adèle, est mariée. Jules est toujours au collège Henri IV. Et Théodore, 20 ans, va accompagner son père en Syrie. À Alep, ils subissent le tremblement de terre. Et père et fils se distinguent en dirigeant les secours. Au bout de quelques jours, non seulement il y a eu un tremblement de terre, mais au bout de quelques jours, le choléra se déclare. La conduite exemplaire de Mathieu lui vaut la croix de la Légion d'honneur. Ferdinand a 20 ans et il se voit bien lui aussi consul. Il ne veut pas croupir dans les bureaux et il souhaite voir du pays. Il veut connaître d'autres peuples, d'autres civilisations. Alors son oncle Barthélemy lui fait rencontrer le baron de Damas qui a succédé à Chateaubriand au ministère des Affaires étrangères. Si bien que Ferdinand, alors, part comme élève consul à Lisbonne. Il y reste 2 ans, si bien que quand il part, il y a une appréciation. Un zèle qui ne s'est jamais démenti et une intelligence peu commune. Il est nommé à Bogota. Alors, ça ne le réjouit pas trop. Eh bien, justement, au dernier moment, on l'envoie à Tunis. Il est tout content parce que son père s'y trouve déjà. Tunis, c'est un marché important. La France y exporte des draps, du sucre, du café des Antilles, de la quincaillerie, de la mercerie. De là, Ferdinand monte en grade. Il part à Alexandrie. Et il ne reverra pas son papa qui est resté à Tunis parce que ce dernier meurt le 28 décembre 1832. Voilà donc Ferdinand en Égypte. Égypte à la mode depuis, vous avez deviné, depuis l'expédition de Bonaparte en 1798. À la tête du pays, Mehemet Ali, un monsieur très intelligent qui s'efforce d'ouvrir l'Égypte à l'Occident et de la détacher de l'Empire ottoman. Oui, jusqu'à maintenant, elle en dépendait. Le nom de Ferdinand de Lesseps est associé à celui de Canal de Suez, parce que le canal avait déjà été creusé du temps des pharaons, et depuis il avait été comblé. L'idée a été reprise par beaucoup de gens. Pendant le consulat de Bonaparte, l'ingénieur Le Père écrit à ce sujet qu'on peut rétablir le canal en le dotant de nouvelles écluses. Ferdinand débarque donc à Alexandrie. Alexandrie, c'est une ville dont Mehemet Ali a fait absolument une ville occidentale, avec des fortifications, des casernes, des rues, des maisons. La ville a 2 ports, le port vieux, qui est réservé aux vaisseaux turcs, et le port de Fran, réservé aux Européens. La population européenne est divisée en 2 groupes. Il y a vraiment là en Égypte des affairistes, des aventuriers, et il y a, d'autre part, une société plus choisie. Ce sont des grands négociants en relation étroite avec le consulat de France. Nous allons faire une première pause musicale. Thank you. Nous sommes sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie de Ferdinand de Lesseps, qui pour l'instant donc est à Alexandrie. Alexandrie, dont la population est très mélangée. Il y a des arrivistes, des aventuriers, mais aussi une population de grands négociants et il faut y ajouter un clan grec. Dans cette société, Ferdinand se sent à l'aise. Il a tout pour plaire et y réussit. Il est bon danseur, excellent cavalier, discutant affaires, d'un optimisme inaltérable. Il jouit d'une santé excellente. Débarque alors un groupe qu'on appelle les Saint-Simoniens. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de quoi ils retournent. Ils doivent leur nom à Henri, comte de Saint-Simon, en famille avec le célèbre mémorialiste Saint-Simon. Alors, je résume la théorie des Saint-Simoniens. Eux disent « Toutes les institutions sociales doivent avoir pour but l'amélioration matérielle et morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. » C'est une bonne idée. « À chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres. » Il n'est pas question, bien sûr, de créer un nouveau paradis terrestre ou de nourrir des fainéants. Un de leurs premiers buts, c'est la création et l'amélioration des voies de communication afin de faciliter la distribution des richesses. C'est pas mal comme idée, hein ? Comme il faut de l'argent, les Saint-Simoniens soulignent l'importance des banques. L'un des Saint-Simoniens, le père Enfantin, rencontre Mehemet Ali. Ce dernier veut un barrage sur le Nil et un chemin de fer depuis le Caire jusqu'à Suez, puis à Alexandrie. Enfantin ne pense, lui, qu'au percement de l'isthme et il n'est pas écouté par Mehemet Ali. Pour plaire à Mehemet Ali, Enfantin et Lambert s'attellent au barrage. Mais les travailleurs embauchés désertent et ils désertent en emportant même les outils. Les difficultés se multiplient, si bien que le projet de barrage est abandonné. Et voilà que se déclare la peste, suivie du choléra. Tout ça dure 2 ans. Ferdinand se dévoue entre le Caire et Alexandrie, exactement comme son papa. Hein. Il est énergique, il garde son sang-froid, son humanité pour l'admiration des Européens et des Égyptiens. Il est nommé commissaire en chef à la santé publique et installe un hôpital au consulat. Cette conduite courageuse est signalée par la presse française, si bien que Ferdinand est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 29 avril 1836. Il demande un congé, il l'obtient et il rentre en France. Alors maintenant, il a l'intention de se marier. Eh bien, il épouse une jeune fille tout à fait charmante, Agathe de Lamalle, ça s'écrit en un seul mot, hein. Mais elle appartient à une famille de juristes éminents. Le mariage est célébré le 21 décembre 1837 en l'église de l'Assomption, rue Saint-Honoré. Il pense repartir en Égypte, mais la situation se dégrade au royaume de Belgique et des Pays-Bas. Alors pourquoi est-ce que la France intervient là-dedans ? Tout simplement parce qu'une fille de Louis-Philippe a épousé le roi des Belges. Ferdinand est nommé alors au consulat de Rotterdam le 19 janvier 1838 et il ne parlera pas beaucoup de son séjour néerlandais. Un fils y naît le 8 novembre 1838, malheureusement il meurt au bout de quelques jours. Alors Ferdinand est nommé ensuite à Malaga, consulat de première classe. Il s'y rend le 15 juin 1840 avec sa femme et son beau-frère qui sera son collaborateur pour le canal de Suez. Alors on s'installe. Le consulat n'est pas très confortable. Le 18 octobre 1840, naît un fils Charles, qui lui se porte bien. Ferdinand ne reste pas longtemps à Malaga. Il est nommé à Barcelone. Il doit faire face à de nombreuses révoltes. Pendant le 19e siècle, on peut dire que l'Espagne est en perpétuelle effervescence, que tout est prétexte pour descendre dans la rue, pour y jeter des bombes, assassiner son voisin, massacrer avec entrain. Il intervient parfois lorsque des Français sont en cause. De nombreux obus tombent dans le jardin du consulat et même dans l'un des bureaux. Ferdinand obtient alors un congé de 6 mois. Le 18 mars 1844, Lesseps et les siens quittent Barcelone à bord d'un navire, de guerre, le Lavoisier. Et finalement, les 6 mois se prolongent un peu. Enfin, le 28 mars 1845, Guizot le prie de repartir à Barcelone. Il est apprécié des Espagnols et lorsqu'il perd son fils Ferdinand, une foule nombreuse assiste à l'enterrement. Février 1848, c'est la chute de Louis-Philippe et l'instauration de la Deuxième République à tendance socialiste. La République alors pense à lui. Il est nommé à Madrid, mais non pas consul, ambassadeur. Il grimpe. Hein. Ferdinand y jouit, d'une influence certaine. Il resserre les liens entre la France et l'Espagne, alors que les relations diplomatiques sont rompues entre la France et la Grande-Bretagne. 10 décembre 1848, le prince Louis-Napoléon devient président de la République. 1849, le prince président nomme son cousin Jérôme Napoléon ambassadeur à Madrid. Ferdinand alors doit s'en aller. Les Français de Madrid se cotisent et lui offrent une médaille d'or en reconnaissance des services qu'il leur a rendus. La reine, Isabelle II, lui décerne même la grande croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique. Donc le voilà parti pour Paris, où il apprend qu'il est nommé ministre à Berne, en Suisse. Il n'ira pas, car à la séance de l'Assemblée, le 7 mai 1849, il est désigné pour aller à Rome pour résoudre la question romaine. Alors c'est bien un peu compliqué cette histoire. De quoi est-il question alors ? Bon, à l'époque, l'Italie se compose de quantités d'États, dont certains sont sous domination autrichienne, d'autres sous l'autorité du pape. Des soulèvements ont lieu sans arrêt et partout. La péninsule s'embrase. À Rome, un gouvernement alors insurrectionnel a dissous le Parlement et fait élire une assemblée constituante le 21 janvier 1849. Et savez-vous quel est le premier acte de cette constituante ? Eh bien, c'est de voter la déchéance de la papauté et de proclamer la République. La France, elle, soutient le pape et prépare un corps expéditionnaire. Celui-ci débarque avec le général Oudinot. Cette armée, elle est mal vue par l'Assemblée constituante qui fait dresser des barricades. Et la Légion de Garibaldi tire même sur les Français. La France s'estime alors insultée, l'armée humiliée, ça devient une affaire d'État. Donc on envoie les Sceptres pour essayer de démêler cette situation. Il accepte la mission à Rome, bien qu'il soit hostile au principe de l'intervention militaire. Les instructions qu'on lui donne ne sont pas très précises. Il n'a pas d'autorité sur le général Oudinot, ça va être ennuyeux. Il doit éviter tout ce qui pourrait déplaire au pape, autrement dit, il est vraiment entre deux chaises. Si on résume, Lesseps ordonnera aux gredins qui gouvernent les États romains de décarpir. Vous pensez bien s'ils vont le faire. Une fois qu'ils seront partis, il incitera le peuple romain de réclamer le retour du pape. Enfin, il veillera courtoisement à ce que celui-ci, par égard pour la France, établisse à Rome un régime libéral. Charmé alors, le général Oudinot entrera à Rome avec ses troupes, acclamé par les habitants, repenti. Franchement, on rêve. Hein. Lesseps alors essaie de discuter avec le gouvernement de Rome, ça donne rien. Le séjour à Rome devient dangereux, la populace envahit et saccage les jardins du pape, elle arrache les confessionnaux, les brûle sur la place publique. Le 21 mai, Lesseps est averti que 3 hommes ont été désignés pour lui trancher la carotide lors d'une réunion à l'ambassade. La tour d'Auvergne alors y va à sa place, à lui il n'arrive rien. Pour finir, Oudinot commence l'assaut de Rome le 30 juin. Et il entre dans la ville le 3 juillet. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Thank you. Donc Oudinot est rentré dans la ville, le pape Pie IX ne rentre à Rome que le 12 avril 1850. Le pouvoir temporel du pape ne pourra subsister que sous la, évidemment, protection des baïonnettes françaises. L'armée française occupera Rome d'ailleurs jusqu'en 1870. Bon, les ceps, il en a par-dessus la tête, il quitte Rome à bord de la frégate Descartes le 1er juin 1849. Arrivé à Paris, il apprend qu'il est violemment critiqué sur la manière dont il a rempli sa mission. Ben, le pauvre vieux, il ne pouvait pas faire grand-chose. Hein. Longtemps, on reprochera à Lesseps d'avoir, par faiblesse ou par sympathie secrète pour les républicains, fait le jeu des révolutionnaires. En réalité, ça n'a pas été facile à cause de l'inimitié d'Oudinot. Oudinot qui n'écoutait rien de ce que lui disait Lesseps. Et comme Lesseps n'avait aucune autorité sur lui, il ne pouvait pas faire grand-chose. Surtout lorsque Ferdinand est parti, c'était sous un gouvernement. Et lorsqu'il est revenu, ben, il en trouve un autre, qui, ne voulant pas assumer les erreurs du précédent, préfère le désavouer. Finalement, vous savez, il passe en jugement. Devant ses juges, il apparaît finalement comme la victime d'un malentendu, car il n'était pas assez homme de son époque. Et oui, élevé en partie à l'étranger, il y a vécu depuis son entrée dans la carrière, donc il n'a ni les préjugés ni les aversions de la majorité des Français. En plus, il n'est attaché à aucune forme de tradition. Il n'est d'aucun gouvernement, il n'aime pas faire partie de quelque chose qui l'oblige à obéir. Il est partisan du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à choisir librement leur chef. Alors, il ne pouvait pas être opposé par principe à la République romaine, bien sûr, si celle-ci était l'expression des aspirations du peuple romain. Finalement, il n'y a pas de sanction. Mais Lesseps en a assez de cette carrière et il se retire. Il rentre chez lui. Il a 44 ans. Il décide alors de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Il se fait leur précepteur. Comme il a beaucoup voyagé, beaucoup vu, il sait communiquer son expérience. Il sait former le jugement des jeunes esprits. Il n'a aucun goût pour la vie oisive des œuvres du monde. Il n'a pas de goût non plus pour la politique. Et il n'a pas les sous nécessaires pour se lancer dans les affaires. Alors, quoi faire? C'est quelqu'un qui a horreur de rester à ne rien faire. Sa belle-mère a de l'argent, beaucoup d'argent. Elle a hérité, elle se trouve alors propriétaire de vastes terres dans le Berry. Elle charge son gendre de trouver une maison assez grande pour loger toute la famille. Donc Ferdinand parcourt le Berry et finit par trouver un château. Un château qui a appartenu à la favorite de Charles VII, Agnès Sorel. Donc sa belle-mère, Madame de Lamalle, l'achète avec les bois et 262 hectares de terres labourables et de prairies. Lesseps, lui, ne s'est jamais occupé d'agronomie. Mais il se lance et il devient gentleman farmer. Sachant qu'il ne sait pas grand-chose, il recueille les avis des gens du métier. Il visite les exploitations qui passent pour les mieux diriger. Vous pensez bien que les gens sont enchantés qu'on leur demande leur avis. Il est accompagné d'un architecte, Monsieur de Vandières. Alors, à eux deux, ils étudient les divers types d'architecture rurale afin de choisir ce qui va le convenir le mieux pour restaurer l'extension des bâtiments du château. Et avant d'ouvrir le chantier, il réunit les fermiers les plus réputés pour leur montrer les plans et leur demander leur avis. Tout le monde est aux anges. Mais il ne le fait pas. Enfin, je veux dire, c'est sa nature. Hein. Il est comme ça, Ferdinand. Le plan choisi, eh bien, obtient, figurez-vous, la médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris de 1855. On peut dire que Lachenay devient. Alors, Lachenay, c'est le nom que la belle-mère a donné au château. Ça devient une ferme modèle. En 6 ans, le rendement de blé à l'hectare a doublé. Lesseps élève des chevaux. Il réalise un croisement d'étalons, un étalon arabe avec des juments percheronnes. Et il obtient une race nouvelle qui a beaucoup de succès. En même temps que ses activités pastorales, Ferdinand reprend ses notes sur la question du percement de l'isthme de Suez. Les Saint-Simoniens ont toujours l'idée de creuser aussi un canal. Ils ont même créé une société d'études pour le canal de Suez. Ferdinand pense que le principal obstacle à vaincre, ça n'est pas un obstacle finalement physique, mais ce sera un obstacle politique, parce qu'une telle entreprise a besoin de finances, mais surtout de la protection du souverain du pays. Or, l'Égypte, qui était gouvernée par Mehmet Ali, ne l'est plus. Ce dernier a perdu l'esprit, donc c'est son fils qui gouverne à sa place. Et son fils, il n'a même pas le temps de lui succéder, car il meurt d'une congestion pulmonaire le 30 novembre 1848. Et Mehmet Ali s'éteint le 2 août 1849. Alors, qui va régner sur l'Égypte ? C'est son petit-fils qui lui succède, qui s'appelle donc Abbas Pacha. C'est un triste sire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il chasse les chrétiens, il ferme les écoles, les hôpitaux, les ateliers. Des membres de sa famille en ont peur, si bien qu'ils se sont sauvés, en particulier un oncle, le dernier fils de Mehmet Ali. Cet oncle-là s'appelle Mohamed Saïd et il réside à Paris. Lesseps le connaît bien, il lui rend visite, et vous pensez bien qu'un tel personnage ne veut pas, quand je pense à Abbas Pacha, il ne veut pas d'un canal. En revanche, ce Pacha-là, il aime bien la Grande-Bretagne, si bien qu'il lui accorde le chemin de fer d'Alexandrie à Suez avec embranchement vers le Caire. Alors ça, la France n'est pas contente du tout. Lesseps, alors, il se risque à écrire un mémoire. Il le confie à son ami, le consul des Pays-Bas en Égypte, et il lui dit de montrer ce mémoire à Abbas Pacha. Eh bien, le consul, connaissant le caractère d'Abbas Pacha, dit à Ferdinand d'attendre des temps plus favorables. Alors c'est ennuyeux quand même, parce que l'idée du canal est dans l'air. Voilà un événement qui pourrait changer les choses. La cousine germaine de Ferdinand, Eugénie de Thébas, épouse l'empereur des Français Napoléon III. Eh bien, Lesseps ne cherchera pas à profiter de ce cousinage et il évitera même de le rappeler autour de lui. Il en aura d'autant plus de crédit auprès de l'impératrice qu'il n'a pas cherché les honneurs. L'année 1853 est une des pires de l'existence de Ferdinand. Charles, son fils, élève au lycée Bonaparte, y attrape la scarlatine, la communique à sa mère. Cette dernière meurt le 13 juillet. Le jeune Ferdinand, qui a été contaminé aussi, meurt le 28 juillet. Lesseps a 48 ans. Il lui reste 2 fils sur les 5. Je ferai une petite remarque là, parce qu'en réalité, on a l'impression qu'il n'a que des fils, mais il a eu 9 enfants, il y a 4 filles. Ben, 4 filles, on n'en parle pas. Charles a 13 ans et Victor 5 ans. Ferdinand part alors pour la Chênaie et confie ses 2 fils à sa belle-mère à Paris pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Il continue donc sa vie de gentleman farmer. Un matin de septembre 1854, il reçoit une lettre qui est expédiée d'Égypte. Abbas Pacha est mort le 13 juillet, assassiné. Son oncle, Mohamed Saïd, lui succède. C'est ce Mohamed Saïd, le dernier fils de Mehmet Ali, que Lesseps connaît bien. Alors Lesseps décide de partir pour l'Égypte en emportant dans ses bagages le projet de percement de l'isthme de Suez. Nous saurons la suite la semaine prochaine. Au revoir à tous. Thank you.